Salut, c'est Gaëtan, j'appelle de Bayonne. C'est une très belle émission, là, l'émission sur les soins psychiatriques. Je suis infirmier en psychiatrie. Et tu viens de juste de dire là que ça n'intéresse plus personne. Les questions autour de la raison et autour de la déraison. Mais moi, ce que je vis en ce moment, c'est que ça n'intéresse même pas la plupart de mes collègues, en fait. Voilà. Moi, ça fait que 8 ans que je suis infirmier. Ça fait pas 8 ans que je travaille en psychiatrie, mais il y en a qui travaillent là depuis 10-15 ans et ça les intéresse même plus de savoir hein, qui ils ont en face et ce pourquoi ils arrivent le matin au boulot ou ce pourquoi ils partent le soir, quoi. Voilà. C'est très alarmant. Très alarmant, la psychiatrie d'aujourd'hui et de demain. Bon courage à tous. À bientôt.
Oui, bonjour. Michel Corr, donc les Avenières. Donc, j'ai été hospitalisé à l'hôpital et je voudrais saluer le travail extraordinaire que peuvent faire les infirmiers et les infirmières. Il m'est arrivé d'écrire des poèmes pour dire le cauchemar de cet hôpital. Je vais vous en lire un. Le cauchemar. Le silence est venu dans la chambre endormie. La pénombre a formé le corps du cauchemar. On dirait de la boue d'ombre que la nuit mâche. Sur la toile, le noir massacre de la gouache. Des masques sont pétris par le vase et le phare de la mort, animant la chair de ces momies. Au milieu des visions, des figures vomies par les laves informes, de grands calamars se meuvent dans l'abîme, atrocement s'arrachent les membres de leur proie. Des infirmiers m'attachent, des faces de démons montrent de part en part de leur crâne les creux de la lobotomie. Voilà, je voulais dire que ces poèmes ont été écrits dans des situations de douleur et c'est grâce au service psychiatrique qu'aujourd'hui je peux vous parler en étant dehors, en étant chez moi. Merci à tous ces gens extraordinaires.
Oui, bonjour Daniel, je suis absolument scandalisée, choquée là par l'émission que je suis en train d'écouter. On est en psychiatrie, c'est pas un zoo. La façon dont cette émission est faite, c'est vraiment comme si les malades, entre guillemets, dits malades, les gens qui sont blessés par la vie, qui en prennent plein la gueule, qui sont très très mal gérés dans ces institutions, si tu savais comment ça se passe, c'est absolument effrayant. Moi j'ai une sœur qui a eu droit à ça, et je peux te dire que vraiment c'est vraiment Auschwitz hein, là-dedans. Donc on les laisse dans leur merde, on les pique dès qu'ils gueulent, on leur donne des médicaments, etc. Je te souhaite pas d'un jour être mis par tes parents ou par des gens qui ne veulent pas du bien là-dedans, hein. Parce que pour en sortir, c'est pas de la tarte. Alors les pauvres infirmiers, moi je les ai vus, je vois comment ils traitent les malades, entre guillemets, c'est-à-dire les gens souffrants. C'est absolument épouvantable, les infirmiers sont pas formés sur le plan psychiatrique. Ils sont pas sympas, pas gentils, violents. Il y a de la drogue qui transite dans les cours des hôpitaux psychiatriques et ils disent rien. C'est absolument hallucinant. Alors les pauvres, tu vois, on les plaint vachement. Qu'il y a un malade de temps en temps qui en flingue un, bon bah d'accord. Mais c'est pas souvent que ça arrive, tu vois. Ça c'est les médias qui ont fait la sauce pour faire diversion. Comme ça on parle pas de la Constitution, on parle pas du reste. N'empêche qu'on n'est pas aux zoo, Daniel, hein. Alors un peu de compassion et de discrétion, de délicatesse pour tous ces êtres qu'on fout là-dedans et qui sont des gens comme toi et moi et qui tout le monde peut basculer un jour. Donc franchement, cette émission est nulle à chier et je vais te dire, je suis scandalisée.
Oui, dis donc, Mermet, l'isolement des fous, moi ça me bouffe parce que s'il n'y avait que les fous, qu'on isole, mais les maisons de retraite, les petits vieux, hein, est-ce qu'on leur donne pas de temps en temps une pilule quand ces petits vieux là font une dépression et qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont plus personne pour se défendre, il n'y a pas de syndicat de vieux, il n'y a plus personne pour les défendre, et quand un petit vieux la ramène dans une maison de retraite, qu'est-ce qu'on fait à ton avis, hein, qui pour les défendre? Allez, salut, c'était Didier du Périgord.
Salut Daniel, je suis Jean-Louis, infirmier à Bayonne, infirmier en psychiatrie. Je voulais te donner un petit témoignage. Je travaille dans un hôpital général et je tenais à vous informer sur l'état et les moyens des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, qui sont encore plus alarmants que dans les CHS. À l'hôpital de Bayonne, depuis les événements dramatiques de Pau, les soignants en psychiatrie se sont organisés, se réunissent pour redonner une place, ou essayer en tout cas, une place et un sens à leur travail, et ce malgré certains médecins, psychiatres, qui eux sont bien dans leur confort et qui ne veulent rien changer. Heureusement, ils ne sont pas tous comme cela, et j'espère qu'on en aura de plus en plus qui seront dynamiques. Voilà, mais il y a du boulot, quoi. Merci Daniel, et surtout, ne lâche rien. Ciao.
Des messages sur le répondeur de la base, j'y suis, suite à la première partie de cette suite sur le malaise dans la psychiatrie. Vous avez vu que il y a des réactions très contrastées et parfois violentes, en reportage qu'on vous a présenté hier et qui se passe à l'hôpital de la Timone à Marseille, où nous avons commencé à passer la soirée, la nuit hier, avec les infirmiers et infirmières psychiatriques de ce service, de l'hôpital. Et aujourd'hui, on va continuer. Évidemment, tout ça est lié avec le drame de Pau, de l'hôpital de Pau de la mi-décembre, qui a secoué et fait crier à tous, aux fous, le monde psychiatrique, l'hôpitalisation psychiatrique est en danger et est en souffrance et surtout en ignorance, en voie de disparition et d'abandon. Et puis, ça retombe un peu. Voilà pourquoi nous avons, avec Olivia Gesbert, voulu vous présenter ces reportages qui sont dus à une auditrice elle-même, Sarina, elle-même, infirmière psychiatrique, qui nous avait adressé un message qu'on a entendu hier. Et elle disait une chose formidable ensuite, Sarina. Elle disait, ne me dis pas où tu as mal. Voilà ce que je dis. J'ai l'impression de dire à ceux qui viennent dans ces structures, ne me dis pas où tu as mal. Je te donnerai de quoi ne pas me le dire.
Il est quelle heure à peu près? Là, il est 2h du matin. C'est toutes les 2 heures que vous faites la ronde?
On va en faire une autre vers 5h.
Là, c'est tout calme. Tout le monde dort, les portes grincent.
Il y a eu quand même des moments très rares.
J'ai remarqué que les psychotiques, qui ont une façon d'être allongés, de tenir leur corps, qui est différente parfois des autres, t'as jamais remarqué? Monsieur F, il est allongissant.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert, la nuit des garde-fous.
Flight number 2, arriving from
Il y a eu quand même des moments très rares. On a quand même eu des moments.
C'est vrai comme si on rigolait.
Gilles?
Quelqu'un, je me souviens d'une patiente, par exemple, dont le mari était Giscard. Qui s'appelait, qui se prenait pour la reine d'Angleterre et qui parlait à son mari à travers le radiateur, en y croyant vraiment, quoi. Hein, et donc il y a des fois où c'est vraiment, cette pathologie, elle est tellement curieuse, on riait, quoi.
Simone? En psychiatrie, c'était aussi la dérision et l'humour. Je pense que c'était un moyen de, oui, comme dit Gilles, de
se distancer.
Voilà. Des parce qu'on est quand même un des versoirs. Je disais toujours que si on avait, comme les manip radio, quelque chose qui se chargeait en rade folie, on aurait bien souvent chargé à bloc, quoi. Parce que quand un psychotique vous laisse rentrer dans sa sphère, dans quelque chose qui est de l'ordre de son monde, je me souviens que parfois, j'ai vécu des moments rares, quoi, où on avait l'impression de toucher quelque chose d'inaccessible, quoi. C'est plus du tout, on n'est plus du tout dans la même dimension.
Il y a un psychanalyste qui disait que Notre folie à essayer de guérir la maladie mentale, c'est cette même folie qui nous pousse à aller sur la lune, qui nous pousse à vivre dans une espèce d'espoir de perfection et qui rejette la mort, en fait, en gros, hein, cette espèce de besoin de perfection qui est un monde sans temps. Voilà.
Face au fou, que fait-on ? Face au fou, que fait-on ? Qu'a-t-on fait ailleurs ? Qu'a-t-on fait jadis ? Qu'a-t-on fait de la folie ? Dans le miroir de la folie, on entrevoit le contour d'une société, le dessin d'une civilisation. Ailleurs, jadis, parfois, la folie a été célébrée. D'autres l'ont tenu à distance, d'autres l'ont soigné. Ainsi, Michel Foucault disait que soigner la folie n'est pas la seule réaction possible devant la folie. Chez les fous, disait-il, il y a des gens aussi intéressants que chez les normaux, et autant de gens aussi inintéressants. Il n'y a pas de culture sans folie. Alors, voilà, la folie... Aujourd'hui, eh ben c'est nous. C'est nous, c'est notre monde, c'est notre société, c'est notre civilisation. Je me souviens, au début des années 60, de l'intérêt passionné que nous avons porté à l'art brut. Avec Jean Dubuffet qui s'intéressait aux productions plastiques de ce qu'on appelait les aliénés. Je me souviens de l'intérêt passionné d'un Queneau ou d'un Blavier pour les fous littéraires. Foucault, encore lui, expliquait que au XVIIe siècle, lorsque le mercantilisme se développe, eh bien le fou devient bouche inutile, personnage oisif, et la sensibilité sociale à la folie change. Le fou devient un fardeau, devient encombrant, devient ce qu'il faut cacher, ce qu'il faut dissimuler derrière des murs, de hauts murs. La réponse a été donnée à ces murs récemment par les soignants, par les professionnels de la psychiatrie, par les psychiatres même qui ont dit: plus il y a d'hommes, moins il y a de murs. C'est un psychiatre qui a dit ça. Plus il y a d'hommes, moins il y a de murs. Or, on sait que, bien sûr, c'est ça l'essentiel du malaise. C'est les problèmes d'emploi, les problèmes de moyens, les problèmes de recrutement, les problèmes de motivation. Mais bien sûr que c'est pas les seuls problèmes. Hier, ceux avec qui on a commencé cette nuit de veille dans cet hôpital à Marseille ont bien dit en quelques phrases leurs angoisses, le fruit de leur expérience aussi, comment ils voient apparaître de nouvelles pathologies, ceux qu'ils appellent les sociopathes, qui sont produits par ces temps d'inégalité, d'instabilité, de précarité, d'exclusion qui n'est plus dénoncée. Et ils disent, nous ici, on est en bout de chaîne, on est au bout de l'impasse. Et c'est dans cette impasse que nous allons passer cette nuit. Ce que Foucault, encore lui, appelait le carrefour des impasses. Mais, encore des phrases de Foucault. Mon rôle, disait-il, est de montrer aux gens qu'ils sont beaucoup plus libres qu'ils ne le pensent, qu'ils tiennent pour vrai, pour évident, certains thèmes qui ont été fabriqués à un moment particulier de l'histoire et que cette prétendue évidence peut être critiquée et détruite. Jusqu'à 18h, la nuit des garde-fous.
Vous voulez de la tisane ?
Ça fera bientôt 3 années 3 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous. Avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de tous ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez, je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle.
Allez-y.
C'est dangereux le métier d'infirmière. Elles peuvent prendre un coup de couteau, elles peuvent. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Pau, hein?
Et vous deux, vous avez choisi d'être ici en fait?
Ah non, non. Moi oui.
Moi non, pas du tout, non. Je me suis un peu surmené, je dirais, ces 4 dernières années. Le médecin m'a astreint au repos.
C'est le premier séjour dans un hôpital psy?
Oui, premier séjour, oui.
Vous envoyez là?
Parce que le placement d'office, c'est-à-dire à la fois la famille et le médecin des entrées.
Mais alors, vous avez tous des étiquettes, vous êtes censé souffrir de quoi?
Moi, une étiquette de bouffée délirante. C'est joli, hein?
C'est un peu pareil.
Ça chante?
Ça chante. Non, je... Non. Bouffée délirante. D'ailleurs, je compte tirer ma révérence lundi, si le monde médical m'y autorise.
Quand on est là comme ça pendant un mois, il y a aussi une analyse qu'on fait avec un psychologue ou un psychiatre, ou c'est que des médicaments?
C'est que des médicaments. Il y a quelques conversations. Je pense qu'elle utilise quand même encore des méthodes un petit peu violentes, hein, au niveau des médicaments. Je veux dire, c'est pas de l'aspirine, hein, c'est... Il existe toujours l'électrochoc, contrairement à ce qu'on dit.
Et les infirmières, elles prennent le temps de parler avec vous?
Je les trouve quand même un peu distantes, pour se protéger sans doute.
Et vous, c'est votre premier séjour ici?
15 mois, j'ai déjà fait. Pour une mauvaise relation avec ma mère. Complexe d'Oedipe mal assumé. Et il n'y a pas que ça, il y a des choses personnelles, comme je suis juif, vous savez, toute la Shoah, tout ça qui passait à la télé, tout ça, ça m'a foutu dedans. C'est la télé qui m'a foutu dedans. J'ai vu, je pétais les plombs, quand je suis allé voir le professeur Dodin avec ma valise, et j'ai dit, il faut que vous me gardiez quelque temps. Quand on pète les plombs, il faut se calmer. Moi, je fais une psychose maniaco-dépressive. Ça veut dire que je me mets dans la merde moi-même. Ça, les maniaques. Non, c'est la vérité. C'est moi-même qui cherche mon problème.
Vous voulez de la tisane?
Et la nuit, pourquoi la nuit?
Pour moi, c'est un peu faire la croix, quoi, honnêtement, quoi. Pendant des années, ça a fait des progrès, on a l'impression que ça stagne, quoi. C'est mettre un peu la pédale douce, quoi, par rapport au travail.
C'est prendre un peu de recul. C'est prendre du recul. C'est prendre du recul.
Il y a aussi des moments où la nuit, tout le monde dort, il y en a un ou deux qui ne dorment pas et qui peuvent avoir à leur disposition l'infirmier pour eux tout seul pour pouvoir parler. Alors qu'ils n'osent pas dans la journée à cause de la promiscuité avec les autres, le faire. Ou simplement parce que la nuit, il y a des angoisses nocturnes, il y a des problèmes spécifiques à la nuit qui font que c'est l'infirmier de nuit qui les recueille. Après, le travail de nuit, c'est vrai que de façon générale, il est plus feutrée, ben, il peut y avoir des nuits très calmes et puis il peut y avoir des nuits où c'est vraiment les grandes rencontres.
Il est pas là. Ah oui, alors, il est là, oui, 10 gouttes de vanille.
Il est quelle heure à peu près?
Là, il est 2h du matin.
C'est toutes les 2h que vous faites la ronde?
On va en faire une autre vers 5h.
Là, c'est tout calme.
Oui, là, c'est tout calme. Tout le monde dort, les portes grincent. C'était la première fois où on avait le téléphone sans fil. Donc on part avec le téléphone, faire le tour, et on rentre dans la chambre d'un patient qui pouvait être potentiellement suicidaire, mais donc on essaie de lui dire que bon, si les idées noires surviennent, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, on peut toujours parler. Il nous dit oui. On arrive en fin de tour, le téléphone sonne. C'était sa compagne qu'il venait de téléphoner en disant qu'il allait se pendre. Et donc on est rentré dans la chambre, il avait fait un savant montage, il s'était passé une cordelette autour du cou qu'il avait attachée au lit, et il se laissait, tu vois. Et donc on est rentré, j'en avais pas eu le téléphone, ce type-là on le retrouvait mort. Hein. Bon, voilà.
près de plage. Voilà.
Simone, il est 2h30, on vient de terminer
la ronde.
Gilles, il est parti se reposer un petit peu. Vous êtes arrivé quand ici en fait à la Timone?
Moi, je suis arrivée en tant qu'élève en 78. Je voulais retravailler, j'avais mes enfants qui commençaient à être un tout petit peu plus grandes. Ma première expérience en psychiatrie a été... J'étais en train de faire une salle de bain et un patient s'est approché de moi. Et ils m'ont proché de chanter. Et énervé, il m'a mis sur le côté en me prenant en poing. Et il a sauté. Oui, il a sauté par la fenêtre qui était ouverte. Et donc il a sauté. Et quelques temps après, bon, il s'est vite rétabli. Mais quelques temps après, il disait que c'était moi qui l'avais poussé. Et donc, c'était une expérience qui était assez traumatisante. Parce que je pensais qu'on pouvait le croire. Et je me demandais ce qu'il avait poussé justement à me dire ça. Personne ne l'a cru. On m'a expliqué à moi ce qu'était un schizophrène. Et quelques temps après, j'apprenais qu'il y avait un concours d'entrée à l'école de psychiatrie. Je suis venue le passer. Je l'ai réussi et c'était parti pour 28 mois de formation. Voilà. Je suis née en 49 et j'ai été diplômée en 80. Un diplôme et puis ben la prise de poste dans la clinique universitaire de psychiatrie, mais j'y suis toujours, plus dans la même unité, mais j'y suis toujours, et la Timone.
C'est des boulots, vous gagnez bien votre vie ou pas?
Au bout de 26 ans d'ancienneté de nuit, en ayant des primes de nuit, je gagne dans les 2400 euros par mois.
Vous êtes marseillaise en fait?
Oui, je suis marseillaise. Mon père est des Corses. Sur son casquette, il y avait écrit TM. Et je lui demandais ce que ça voulait dire. Il me disait travailleur malheureux. Et ma mère faisait des ménages. On lui avait dit qu'on a embauché. Il était donc venu sur le continent. Il fallait apprendre les tables de multiplication. Il fallait savoir écrire. Ce qu'il a appris, puisqu'il avait quitté l'école à 11 ans. Ce qu'il a appris. Et puis voilà, quoi. Il a fait toute sa carrière à la RTM.
C'est quoi, on fait de la régie des transports marseillais?
Voilà, tout à fait. Dans les villages corses, il y avait le fou du village qui passait de maison en maison, demandait des bonbons ou des cigarettes. Et enfin, bon, moi j'étais môme et j'avais l'impression que la folie, elle était acceptée, qu'elle était tolérée. Oui, c'était la folie à échelle humaine. On a discuté de qu'est-ce que c'est qui nous motivait à rester ici. Même quand on peut être désabusé, comme j'ai pu l'être à certains moments, et je pense que je le serai encore, on ne sait pas pourquoi, il suffit de peu de choses. En tout cas, ce qui continue à être chevillé en moi, enfin chevillé au corps, c'est... Oui, je l'aime, ce putain de métier. Quoi. Par contre, on va se mettre au... une agression au mois d'août qui était difficile à vivre. C'est un garçon que je connaissais depuis 17 ans qui, un soir, après avoir mis le feu dans le service, s'apprêtait à mettre le feu une seconde fois. Donc j'ai essayé de lui prendre son briquet. J'ai pris son briquet, mais lui ne m'a plus lâché. Il disait qu'il allait même me tuer. Il s'est retourné vers moi et il m'a pris par le cou et en me donnant des coups. Donc j'ai reçu un coup à la pommette, une lèvre éclatée, et puis une entorse cervicale qui a nécessité une minerve, mais c'était un processus inévitable à mon avis, parce que il faisait absolument, bon, il se gavait de médicaments, il continuait à avoir des pernes, enfin bon, la prise en charge n'a peut-être pas été ce qu'elle aurait dû être, et peut-être que moi-même, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire le soir de l'agression. Mais ça, on se le dit que dans l'après-coup, quoi. D'abord, son petit égo en prend un coup, parce qu'on pense maîtriser, mais je pense qu'en psychiatrie, on maîtrise pas grand-chose. Donc, si mon petit égo en a pris un coup, c'est parce que je pensais que s'il avait à taper sur quelqu'un, ça aurait certainement pas été sur moi. C'est terrible à dire, voilà. Mais bon, c'est l'échec de tout un service. Mais depuis des années, c'est peut-être le fou désigné. C'est celui qui va un petit peu porter tous les stigmates de l'institution. En termes courants, on dirait le bouc émissaire, quoi. C'est celui qui soulage la souffrance des autres.
Et là-dessus, ce greffe, quelques mois après, en décembre, ce qu'on a appelé le drame de Pau, qui a eu un écho médiatique énorme. Mais qu'est-ce que ça a réveillé, en tout cas, personnellement, chez toi ?
Alors, chez moi, ben, bien sûr, ça fait reflamber un petit peu... C'était, je me souviens, j'étais quand même en pleurs, oui, c'est vrai, bon, j'ai pas honte de le dire. Mais c'était pas les premières qui décédaient dans des circonstances pareilles. Il y avait eu un drame à Lyon, il y en avait eu d'autres ailleurs. Peut-être que c'était inéluctable, quoi, que il est regrettable qu'on arrive jusqu'à ces extrémités pour qu'on prenne enfin conscience de ce qu'est la psychiatrie, quoi, voilà. Pardon, je suis un peu émue.
Elle est omniprésente, cette violence ? Elle est physique, psychique, hein ?
Bon, je crois qu'elle est les deux à la fois. Elle est psychique, c'est la violence qui est faite aux patients, parce qu'on l'enferme, on l'hospitalise parfois contre son gré. Il y a la violence de l'institution. Pas rien de vivre en service de psychiatrie. C'est pas rien d'avoir l'appellation malade psychiatrique. Et puis, il y a la violence quotidienne, quand on est contraint à prendre des traitements, quand on est obligé de les cravater, de les biquer. Alors, cravater, c'était un terme ancien. Maintenant, on les contient, on les maintient. Ça voulait dire qu'on plaquait le malade comme on pouvait, au sol, sur son lit, et que c'est l'injection. Mais la violence, il faut faire attention qu'elle ne soit pas banalisée. Quand j'ai repris... ça faisait 3-4 jours que j'avais repris. Il y a un patient qui me disait, c'est un patient qui est en train de service, qui me disait, quand je lui ai tendu son verre de médicaments, qu'il ne prendrait pas ce traitement. Et donc, on essayait de négocier la prise du traitement. Et il m'a donc traité de SS. Et bon, c'est vrai que c'est difficile, quoi. C'est difficile de savoir que, enfin, quelle que soit nos motivations, on essaie d'être là dans le soin. Et on s'est traité de SS.
Il faut peut-être juste expliquer comment les gens entrent ici.
Voilà, ils peuvent entrer de leur plein gré, c'est-à-dire entrer en hospitalisation libre.
C'est ce qu'on voit sur le tableau, voilà, en fait.
Ce qu'on voit sur le tableau. Donc, et puis, il y a ce qu'on appelle les hospitalisations sous demande d'un tiers, parce que soit c'est sur demande de la famille, soit c'est sur demande d'un proche ou même d'un administratif. Puis ensuite, on a des HO. C'est donc la jeune femme qui est en chambre d'isolement. Elle vient des Baumettes, où elle était incarcérée, où elle a fait une tentative de suicide, et son état de santé n'étant pas compatible avec l'incarcération, donc on nous l'a confié. Parfois, c'est difficile, quoi. On reçoit des patients qui la veille étaient en prison, avec des surveillants de la pénitentiaire, avec des règles très strictes. Et puis il se retrouve avec deux bonnes femmes dans le service, quoi. Et pas toujours évident à gérer.
L'homme, l'humain, la présence humaine, le dialogue, la parole. C'est ce qui est revenu partout, tout le temps. Depuis ce drame de Pau, à la mi-décembre, c'est l'inhumanité, le progrès de l'inhumanité dans ce domaine de la psychiatrie, c'est-à-dire la médicalisation, c'est-à-dire la gestion technocratique. au détriment de l'humain, de la présence humaine et de la parole. Je répète cette phrase dite par un psychiatre. Plus il y a d'hommes, moins il y a de murs. On continue cette nuit, la nuit des garde-fous, à l'hôpital de la Timone avec Simone.
La parole, je pense qu'elle devrait avoir la première place. Malheureusement, elle ne l'a pas. Lors d'une ronde, devient un jeune patient cellule et ce patient-là avait fait des doubles nœuds à ses draps et il avait confectionné un double nœud coulant autour de son cou et il s'apprêtait à se pendre. Donc ma collègue est immédiatement allée chercher du renfort, mais on pouvait plus attendre et donc je suis rentrée et j'ai commencé à lui parler. Vraisemblablement, il entendait des voix qui lui commandaient cet acte et donc je lui demandais de m'écouter, de ne pas écouter ses voix, de m'aider parce que j'arrivais pas à l'aider et que moi j'avais envie qu'il descende de là, qu'on puisse parler. Il m'a dit oui madame, je vais vous aider. Il a accepté de descendre. J'ai réussi à ce moment-là à lever le bout de drap qu'il avait, qui en serrait son cou. Voilà. On pense qu'on est trop dans la chimie, mais pas assez dans la parole.
Ouais. Ne me dis pas où tu as mal, je te donnerai de quoi ne pas me le dire.
Oui.
C'est ça?
Oui. Oui, je pense. Maintenant, même quand ils nous font dépositaire de quelque chose, on peut se demander ce qu'on peut en faire après. Toute cette souffrance-là, on a l'impression qu'elle passe. C'est-à-dire que le patient nous fait passer sa souffrance, qu'on comprend comme ça, on se dit, tiens, je vais faire passer à l'autre, qu'on met en position de celui qui sait, c'est-à-dire le médecin. Et parfois, on se rend compte que cette parole-là, elle est perdue au fil des passages de relais comme ça. Nous, on dit souvent aux patients, mais nous, on est le gardien de votre sommeil. Alors, ça ne fait bien rien, parce qu'il y en a certains qui nous disent, mais moi, j'ai pas envie de dormir. Il y a parfois des moments rares de nuit, d'abord parce qu'on est un peu plus disponible, On ne dit pas les mêmes choses de nuit que de jour. Alors, on nous dit, on peut vous parler, les autres infirmières, elles ont beaucoup de travail. Je pense qu'ils sont autant en souffrance de jour que de nuit. Mais par contre, peut-être qu'ils arrivent à mieux le dire, parfois.
Si on dit qu'on peut juger de l'état d'une société à la manière dont elle traite ses fous, tu dirais que notre société, elle est dans quel état?
C'est en piteux état. C'est difficile. De tout temps, il a été difficile d'être malade de psy. De tout temps, je me souviens, j'étais élève, il y avait une patiente qui disait mais il faut pas dire qu'on est un malade psychiatrique pour retrouver du travail. Pourtant, à l'époque, il y en avait encore du travail. Il y avait certains médecins qui, pour envoyer les arrêts de travail auprès des employeurs, effaçaient le service de psychiatrie. Il était hospitalisé pour l'hôpital de la Timone. Je crois que ça persiste encore. Quand on me dit « je travaille en psychiatrie », on me dit « oh, vous n'avez pas peur ». On ne peut pas dire que je tremble tous les soirs. Enfin, les murs persistent. Il y a une partie qui s'est un peu effondrée, mais il y a encore la base. Quoi. Mmh. À certains endroits, il y a quand même des beaux pans de murs qui sont là. Ça dérange. Ça dérange, ça renvoie à sa propre folie, à la folie de la société. C'est dérangeant, un fond. Ils dérangent, ils disent des vérités aussi, les fous. Ils pointent, s'engouffre dans les failles. Dans les failles de la société. C'est dérangeant. Il n'y a qu'à voir le discours sur les différences.
C'est quoi ça?
L'hélicoptère. Il va sur la piste. Donc, on doit faire un rapatriement. Alors, il n'y a pas d'urgence là-dessus. Il va dans un service. Voilà. Ben, on disait combien les fous dérangés, combien les fous parfois... Oui, on arrive, bien sûr, à réinsérer, parfois. Peu, mais un peu. Mais que le monde n'est pas tout à fait prêt à entendre la folie et à l'assumer.
Il arrive
sur la piste. Alors quand les hélicos passent, tu te rejoues, comme je te dis, c'est cadeau. Il va repasser dans quelques instants dans le Sunday.
C'est pas si calme la nuit alors?
Non, et puis là, elle est très bruyant. De ce côté, on a la piste d'hélicoptère, et de l'autre côté, on a les poubelles.
Ça, c'est à 5-6 heures du mat, non?
Non, pas du tout, c'est la nuit. Je vais te montrer. Encore les clés. C'est un réflexe. Les clés. Donc la nuit, il y a un petit train qui passe ici. Une voiturette à wagonnet qui emmène tous les déchets de côté qui sont triés. Voilà. Bon, là, ça fonctionne pas. Mais tu vois ces drôles de petites choses en métal, là. Mm-hmm. Tu vois ? Ben voilà, c'est ce qui parcourt l'hôpital la nuit. L'hôpital est un lieu bruyant la nuit. Voilà, et donc là, c'est le fumoir d'été. C'est le seul endroit où les patients peuvent prendre de l'air. À l'époque, c'était un séchoir à linge.
C'est pas très sympathique.
Hein. Maintenant, le service, c'est doté. C'est
deux dalles de béton, un grillage.
Vu sur l'incinérateur, sur les locaux à poubelles.
C'est l'incinérateur qui ronronne comme ça?
Oui, je pense. Tu sais, la nuit, les bruits sont absolument pas les mêmes que le jour. Ça résonne. Le vent ici, par exemple, c'est du vent, c'est impressionnant. Il suffit que ce soit un peu ouvert ici pour que ça fasse chambre d'écho.
C'est la dernière tournée, il est quelle heure? La dernière ronde?
Ben, il est 5h15.
La relève arrive à quelle heure?
À 6h.
Réveille Gilles. La cérémonie du café à 5h30 du matin, c'est pour les infirmiers de nuit ou pour ceux qui arrivent?
C'est pour ceux qui arrivent aussi. Parce que nous, on va commencer à en boire un, par exemple. Mais quand ils arrivent, on en boit un autre. C'est sympa quand ça sent le café.
Ceux qui arrivent à 6h pour prendre la relève, ils vont bosser jusqu'à quelle heure?
Ils vont bosser jusqu'à 13h45, je crois.
Et après, c'est 13h-20h.
Voilà.
Alors, l'avenir de la psychiatrie hospitalière, c'est quoi? Mais oui, à 6h moins quart. Mais oui, Simone.
On va boire le café d'abord. Mais fois, il arrive, il était en costume, en basket. Ouais, on l'est déshabillé parce que je vais le mettre en cellule. Alors il dit, faites attention, ne touchez pas à mes niquets, touchez pas à mes niquets. Vous allez me niquer en costume, ne touchez pas à mes niquets. Oh. On est du peuple, hein.
Ben oui. Ça va?
C'est une
bonne nuit?
Oui, c'est une bonne nuit.
Pour les patients, elle a été tranquille.
Ouais. 56, il a dormi toute la nuit. 57, un peu perturbé quand même. En fait, ça tombe bien que je l'ai réveillé parce qu'il était en train de rêver un cauchemar sur le sénateur. Je ne sais pas si c'était...
Ouais, il a lu Le Monde toute la journée.
D'accord. La 59, il a dormi, il est réveillé, comme vous avez pu le constater. La 67, il a dormi. Quant à la 70, ben, toujours un sommeil très léger.
Ok. Elle vous a dit, Marnia, hier, pour l'interne?
Oui, elle nous a dit. Donc, le patient est à côté. On est donc allé...
Comment
c'est
à côté? Il
est commencé à côté. Ben oui, il était en cellule à côté.
Ben, je suis partie à 14h hier, les flics étaient venus le chercher.
Du café. Du café.
Moi, je m'en branle un peu, ouais.
Bon, ben, la nuit finie. On te dit bonsoir.
Bonjour.
Ciao les filles, à demain.
Bonne journée.
Merci à tous, merci à Simone, merci à Gilles, à Eliane, à Vincent, merci aussi à Sarina, cette auditrice qui a suscité ce reportage, cette émission, à l'hôpital de la Timone à Marseille. Nous remercions évidemment aussi les patients qui se sont confiés au micro d'Olivia Gesbert. Merci aussi au professeur Naudin qui a accepté la réalisation sans condition de ce reportage à l'hôpital de la Timone à Marseille. Merci à ceux qui nous ont donné des conseils, leurs avis, leurs critiques. Merci au docteur Paul Machetot. Et puis je rappelle chef-d'œuvre de Michel Foucault, l'histoire de la folie. Je résiste pas au plaisir de relire, il nous reste une seconde, de relire ce texte très court de Foucault qui disait « Mon rôle est de montrer aux gens ». Je l'ai lu au début, mais je résiste pas au plaisir de vous le répéter. « Mon rôle est de montrer aux gens qu'ils sont beaucoup plus libres qu'ils ne le pensent, qu'ils tiennent pour vrai, pour évident, certains thèmes qui ont été fabriqués à un moment particulier de l'histoire et que cette prétendue évidence peut être critiquée et détruite. » Autre chose tout à fait différent, au Festival du cinéma du réel à Beaubourg, samedi 5 mars à 21h, animation dans la salle d'attente, un documentaire de Carlos Rodriguez Sanz qui a filmé 3 ans de vie quotidienne dans un hôpital psychiatrique près de Madrid, c'est pas si différent. Et puis aussi à voir Le Désenchantement, un documentaire de Jem Chavary sur le franquisme. Ça, c'est les conseils de Pascal Pascariello. Demain, samedi 5 mars, à l'appel du collectif Creusois, manifestation à Guéret, à partir de 14h30, pour la défense et le développement des services publics.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique La Basse et J'y suis technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Stéphane Devernet. L'équipe de La Basse et J'y suis, c'est Antoine Chao, c'est Yann Jouquet, c'est Pascal Pascariello. Et le répondeur, c'est Christophe Imbert et Raphaël Moutarde qui s'en occupent. Le numéro du répondeur qui vous attend, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de là-bas, si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve lundi à 17h pour là-bas, si j'y suis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Et dans 30 secondes, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut à tous.